Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Pourquoi ça monte? Pourquoi ça descend? Pourquoi ça descend? C'est bien souvent la popularité des hommes politiques et le commentaire politique se compose souvent de ces deux phrases. Et généralement, ça a plutôt tendance à descendre car les présidents, les gouvernements actuellement sont rarement populaires bien longtemps. Emmanuel Macron n'échappe pas à cette règle, même si aucun de ses adversaires politiques ne jouit aujourd'hui d'une popularité insolente. Pour en parler, je suis en compagnie de Bruno Jambard. Bonjour, vous êtes directeur général adjoint de l'Institut Opinionway. Vous avez notamment publié une présidence anormale aux éditions Descartes et compagnie. Et avant de parler de la situation française, il y a eu les résultats des élections italiennes. Vos commentaires sur cette situation est-elle comparable à ce que l'on peut observer en France ?
On retrouve dans les résultats en Italie des tendances qu'on voit à travers toute l'Europe, hein, à savoir par exemple l'affaiblissement de la social-démocratie. On voit que le Parti démocrate fait un très mauvais score alors qu'il était au pouvoir. Et de ce point de vue-là, c'est une tendance très européenne et qu'on a vu évidemment l'année dernière chez nous également. On y voit aussi l'émergence de partis populistes, alors qui sont pas tout à fait de même nature que ceux qu'on voit dans d'autres pays européens, et notamment ce parti, le mouvement 5 étoiles, hein, qui arrive en tête. Et on y retrouve aussi d'ailleurs les ingrédients à la fois de son succès et de ses limites. Son succès parce qu'ils arrivent à être des partis très puissants qui sortent parfois en tête des élections, mais qui n'ont pas d'alliés et qui donc sont en difficulté pour constituer une majorité, un gouvernement. Alors en France, il s'agit de passer la barre des 50% dans notre système électoral. En Italie, c'est de trouver des alliés à la Chambre pour former un gouvernement. Donc on voit bien que tout cela est assez proche. Malgré tout, c'est quand même un pays un peu particulier, hein, très touché par la crise de 2008, l'Italie. Et on y a vu notamment le sentiment européen beaucoup décliné, beaucoup plus que dans d'autres pays. Et c'est probablement ce qui explique la puissance particulière des partis anti-européens là-bas.
Mais alors Bruno Jambard, vous qui auscultez l'opinion française, avez-vous l'impression que la vie politique française, le moment politique que nous traversons, est un moment atypique ou bien est-il assez représentatif finalement de ce que l'on observe aujourd'hui dans les démocraties ?
Il est quand même relativement atypique. Il est atypique parce que même s'il s'appuie sur des fondamentaux qu'on retrouve ailleurs, hein, notamment cet affaiblissement de la social-démocratie, il ne se traduit pas tout à fait de la même manière chez nous que dans d'autres pays européens. Par exemple, on a cette émergence très forte d'une gauche radicale. On l'a dans d'autres pays européens, on la voit en Espagne, mais on la voit pas, par exemple, en Allemagne, qui est un pays auquel on se compare souvent, où le mouvement Die Linke n'a jamais fait la percée qu'a réussi à faire Jean-Luc Mélenchon, par exemple, à la présidentielle l'an dernier. Et puis, on y a aussi, hein, en même temps, un affaiblissement de la droite très fort, plus qu'ailleurs, qui explique aussi cette émergence du phénomène Macron qu'on a vu et qui aujourd'hui domine la vie politique française.
Vous parlez d'une percée de la gauche radicale, mais on a aussi l'impression que cette gauche radicale, elle a siphonné la gauche traditionnelle.
Oui, elle l'a en partie siphonné, c'est-à-dire que la gauche traditionnelle s'est cassée en deux, hein, finalement, entre d'une part ceux qui ont rejoint Emmanuel Macron, d'un point de vue une forme de centre-gauche, et ceux qui ont rejoint effectivement une gauche plus radicale à travers Jean-Luc Mélenchon. Du coup, ça met la gauche en très grande difficulté parce que ces deux gauches ne peuvent pas vraiment s'allier, et donc ça rend difficile aujourd'hui l'hypothèse d'une gauche qui arriverait à devenir majoritaire dans le pays.
Les réformes se suivent, en tout cas les annonces de réformes. Aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure, par exemple, de cette réforme de la formation professionnelle. Il est question également de réformes former la SNCF, il y a d'autres réformes en cours, peut-être une réforme constitutionnelle à venir. Tout cela rend Emmanuel Macron impopulaire, on voit sa courbe de popularité diminuer. Est-ce que c'est là un phénomène normal ? Est-ce que vous avez la sensation que le président de la République a une popularité, une évolution de sa popularité différente des autres présidents que vous avez analysés ?
Je dirais que la popularité d'Emmanuel Macron, elle est par nature plus difficile à obtenir que celle de ses prédécesseurs. Il faut toujours se rappeler qu'il a une base électorale plus réduite. Au premier tour, il n'a fait que 24%. Nicolas Sarkozy avait fait 31%. François Hollande, 28%. Donc on voit bien que le point de départ est plus délicat. Donc c'est déjà plus compliqué pour lui. Après, l'impact des réformes, il est ambigu sur la popularité d'Emmanuel Macron. D'un certain point de vue, il contribue à maintenir maintenir un soutien à Emmanuel Macron important, notamment à droite, parce que il est le président qui essaye d'agir, de faire ce qu'il a dit pendant sa campagne, de faire bouger le pays, et c'est un de ses fondamentaux. Et en même temps, c'est vrai que les réformes elles-mêmes sont souvent des réformes qui sont minoritaires dans l'opinion. La réforme de l'ISF, par exemple, n'était approuvée que par environ 40% des Français. Mmh. On verra si la réforme de la SNCF est approuvée massivement ou pas. Ça dépendra un peu de l'évolution des choses.
Ce week-end, il y a eu beaucoup de commentaires sur les sondages faits par l'un de vos confrères d'Odoxa. On a expliqué, notamment du côté de la France insoumise, on explique que ce sondage est en partie non fiable, je vais le dire de manière polissée, et en tout cas qu'il ne représente pas l'état réel de l'opinion. Est-ce que vous avez la sensation que cette réforme de la SNCF, elle est populaire, elle pourrait servir la popularité de l'exécutif ?
Je pense que elle est a priori plutôt populaire, mais que elle est, cette popularité de la réforme est très instable et elle dépendra beaucoup de l'évolution du rapport de force et éventuellement d'un conflit entre les agents de la SNCF et le gouvernement. Il faut se rappeler que sur certaines réformes, il arrive très souvent qu'au départ, on parte d'un point, je dirais, de soutien de l'opinion aux mesures qui sont annoncées par les gouvernements et que face à un conflit, l'opinion se retourne et décide que finalement, elle souhaite plutôt soutenir les grévistes.
Par exemple,
on avait eu le cas, par exemple, du CPE dans les années 90 avec Édouard Balladur. On avait eu aussi le cas quand sous Dominique de Villepin du contrat première embauche qui était aussi une mesure pour les jeunes. Et on avait vu notamment l'opinion des jeunes assez largement changer avec les mouvements et les manifestations contre cette réforme. Donc ça arrive assez régulièrement. Il y a quand même dans l'opinion une angoisse des conflits, une angoisse des blocages, et donc ça peut aussi impacter sur ce type de réforme, parce qu'il faut bien comprendre que une réforme comme celle de la SNCF, c'est pas un sujet que se posent les gens tous les jours, donc ils n'ont pas forcément un avis extrêmement formé, extrêmement précis sur ce type de mesure.
Mais alors c'est pas bien de prendre un bouc émissaire, par exemple les cheminots, et de dire voilà, il faut détricoter leur statut, parce qu'on a l'impression que c'est aussi un peu cela et la stratégie qui est suivie aujourd'hui par l'exécutif. Bruno Jambard,
ça dépend. C'est vrai que ce qui est clair, c'est que les cheminots n'ont plus le soutien aujourd'hui qu'ils avaient en 95, par exemple, au moment des grandes grèves contre le plan Juppé. Ça, c'est évident. Maintenant, pour autant, est-ce que c'est une population qui ne peut pas espérer bénéficier du soutien de l'opinion à un moment donné ? Ça dépend notamment de la capacité qu'ils auront à faire passer le message que ce qui leur arrive peut arriver demain à d'autres catégorie de population. Et donc, moi, en tant que citoyen, est-ce que je me dis ou non que la réforme de la SNCF, c'est une première étape vers ma propre réforme de mon système de retraite, par exemple, ou ma propre réforme de mon statut. Donc, on voit bien que tout ça fait aussi système hein, dans l'opinion, et que ça dépend beaucoup de la manière dont les choses s'organisent dans le débat public par la suite.
À gauche, dans la gauche radicale, Olivier Besancenot a dit ce week-end qu'on était toujours le cheminot de quelqu'un. C'est un peu l'inverse de ce qu'avait dit Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture, puisqu'il avait dit aux agriculteurs qu'il soutenait les agriculteurs et que d'un autre côté, il était obligé, au vu des conditions de vie de ces agriculteurs, de réformer le statut des cheminots qui, eux, avaient un certain nombre d'avantages, disait-il. Et on est un peu étonné parce qu'il y a parmi les critiques qui sont adressées à Emmanuel Macron, celle d'être un président des riches. Alors le fait de s'attaquer à ce qui est perçu comme un statut avantageux, celui des cheminots, alors que d'un autre côté, on peut être taxé d'être le président des riches. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno Jambard ?
Je crois que il y a une démarche et une logique dans ce que propose Emmanuel Macron, et que c'est aussi ça qui fait le ressort de son soutien aujourd'hui, qui consiste à dire il faut aider un certain nombre d'énergies positives dans le pays et lutter contre les blocages. Et donc de ce point de vue-là, c'est évidemment toujours risqué d'apparaître comme le président de ceux qui vont bien, parce que c'est un peu le reproche qu'on lui fait, mais c'est aussi une demande assez forte d'une partie de la population. D'un certain point de vue, pour revenir à la question du populisme dont on a parlé au début, Macron a incarné et incarne une certaine forme de populisme de la part des plus aisés dans la société.
C'est-à-dire
que ils avaient eux aussi le sentiment qu'on ne les écoutait plus, qu'on ne s'occupait plus d'eux et qu'on ne faisait plus rien pour eux. Toutes ces catégories sociales.
C'est le populisme des dominants.
Oui, c'est une forme de populisme des, en tout cas, des élites ou des classes moyennes supérieures. Et donc, il faut bien comprendre qu'il s'appuie là-dessus et qu'il a besoin de continuer à s'appuyer là-dessus. Parce que le plus important en termes de popularité, finalement, c'est pas tellement d'être à plus ou à moins de 50%. On peut très bien être réélu avec une popularité. Et moi, je pense que, d'ailleurs, aujourd'hui, avoir plus de 40, 45% de popularité, c'est très compliqué dans le monde d'aujourd'hui, dans un monde politique aussi fracturé.
Oui, aux États-Unis, on dit même que 30% suffisent finalement à être réélu.
Oui, ça peut arriver parce que la popularité, c'est quelque chose d'absolu. On vous juge, vous et seulement vous. L'élection, c'est du relatif. Donc, si on vous préfère aux autres, vous pouvez quand même gagner, même si votre popularité n'est pas énorme. Mais ce qui est important dans la popularité, c'est de toujours conserver sa base électorale. Celle qui vous permet un peu de survivre dans le cadre d'une élection. Et c'est ce qui fait que...
Mais alors, quelle est la base, justement, d'Emmanuel Macron? Parce que je vois le titre du Parisien sur les retraités. Le Parisien dit « La colère gronde chez les seniors ». C'est un sujet qu'on a traité dans les matins de la semaine dernière. La CSG, l'augmentation de la CSG sur les retraites, des retraites qui parfois sont des retraites modestes. À partir de 1200 euros, les retraités sont soumis à la CSG, ce qui fait qu'il y a quand même une grande masse de retraités qui sont soumis et qui ne se considèrent pas comme étant des gens particulièrement privilégiés. C'est quand même étonnant de frapper sur la classe moyenne, non ?
Alors, le problème, c'est que effectivement, il y a eu un choix très fort de privilégier les actifs contre les inactifs dans ce que fait Emmanuel Macron. Et quand on regarde, les retraités, c'est plutôt la base électorale de la droite. Et c'est plutôt celle qui reste à la droite dans cet univers où elle a beaucoup baissé ces dernières années. Donc la base électorale d'Emmanuel Macron, c'est plutôt les classes moyennes actives, ceux qui ont entre, j'irais, 25 et 55 ans.
Parce que les seniors n'ont pas voté Macron ?
Il a fait des scores corrects chez Emmanuel Macron, mais il a fait des scores inférieurs à ce qu'a fait, par exemple, François Fillon, en tout cas à la présidentielle. Ce qui a fait son succès après au législatif, c'est qu'il a réussi à continuer à grimper dans cet électorat-là. C'est plutôt un électorat aujourd'hui qui recule chez lui quand on regarde depuis quelques semaines.
Bah oui, mais on comprend pourquoi, justement. Est-ce que ça n'est pas une stratégie un peu étonnante ?
C'est une stratégie risquée parce que les retraités, c'est 25% des Français et probablement 30% des électeurs quand on sait que leur taux de participation est plus élevé aux élections. Maintenant, on voit bien aussi que là aussi, quand on parle des retraités d'une catégorie qui pèse 25% de la population, on a des situations extrêmement diverses aussi au sein de cette population. Et vous avez quand même, chez les retraités, des soutiens non négligeables pour Emmanuel Macron. Donc, tout dépendra là aussi du sentiment qu'ils auront, des efforts qu'ils ont faits. Est-ce que ces efforts auront servi à redresser le pays ou pas ? S'il n'y a pas de résultat au bout, évidemment, ça peut poser des problèmes pour le président de la République à terme.
Cette situation politique, aujourd'hui, elle paraît paradoxale, Bruno Jambert, parce que on a l'impression que, à la fois, il y a une popularité d'Emmanuel Macron qui est mesurée. Il n'est pas aujourd'hui très populaire. Il navigue entre 40 et 45% en fonction des critères qu'on retient. Mais d'un autre côté, il n'y a pas véritablement d'alternative forte. Il n'y a pas quelqu'un ou un parti même qui paraît constituer une véritable alternative. C'est paradoxal et étonnant.
Oui, c'est effectivement comme si Emmanuel Macron était finalement un président pas si populaire que ça, mais je dirais assis sur un tas de ruines, et donc qui est le seul à émerger. Et ça, c'est ce que l'on voit dans toutes nos enquêtes. Alors, on est très loin du dénouement du quinquennat, mais on voit bien le chemin très important qui reste aux forces d'opposition pour se reconstruire. La difficulté, c'est aussi pour ces forces d'opposition qu'elles sont diverses et inconciliables. Évidemment que la droite ne s'alliera pas avec les insoumis. Donc, il va falloir à un moment, si les adversaires d'Emmanuel Macron veulent l'emporter demain, que l'une de ces forces d'opposition s'impose par rapport aux autres.
Est-ce que ça vous rappelle une situation que vous avez déjà connue, déjà vécue, Bruno Jambard, en matière donc d'état de l'opinion ?
C'est une situation quand même assez nouvelle par cette force centrale et l'affaiblissement de toutes les autres. Ceci étant, quand on regarde la situation d'Emmanuel Macron aujourd'hui, il a face à lui un bloc de droite qui est affaibli, mais qui n'a pas disparu et qui est probablement sa principale difficulté. Et donc la question est de savoir si Emmanuel Macron va incarner finalement demain ce qu'était la gauche avant et on reviendra vers un affrontement gauche-droite ou si on aura une situation totalement nouvelle à la fin.
Bruno Jambard, vous êtes directeur général adjoint de l'Institut Opinion Way. On vous retrouve aux environs de 8h20. Vous venez de publier une présidence anormale aux éditions Descartes et compagnie. On va voir justement dans quelle mesure elle l'est ou pas anormale, cette présidence. Vous serez rejoint par Elisabeth Pinault, qui est journaliste politique à l'agence Reuters. Elle est présidente de l'association de la presse présidentielle et dans sa carrière, elle a suivi tous les mandats présidentiels depuis Jacques Chirac.